RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. Bonjour à vous toutes et à vous tous, et c'est avec énormément de plaisir que je vous retrouve comme chaque samedi et dimanche, vous le savez, 6h, 10h, les meilleurs experts de France sont là. Et après donc le jardin, la maison hier, là nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Et puis on enchaînera avec Jean-Luc Moreau tout à l'heure, 8h, 10h, votre rendez-vous auto sur RMC. Jean-Luc y répondra évidemment à toutes vos questions auto. L'essai de la semaine, ça sera la Mini Clubman Cooper. Et on évoquera l'éclairage entre 9h et 10h. Évidemment, l'éclairage dans le domaine de l'automobile, parce que dans le salon, ça a moins de sens. Bon, Laetitia Barlerin, pour cette deuxième partie dédiée aux animaux, tout à l'heure, on découvrira un documentaire qui sera diffusé demain.
Sur France 3, en prime time, comme on dit.
En prime time. C'est rare d'ailleurs, c'est assez rare pour le signaler. Hein. C'est vrai qu'il y a, oui, y a rarement des documentaires animaliers en prime time.
Alors bon, surtout un documentaire qui n'est pas un documentaire sur la faune,
oui,
africaine.
Voilà, là c'est vraiment de la société.
C'est de la société, voilà. Ça s'appelle L'animal est une personne. C'est un documentaire sur bien-être des animaux de ferme, des, oui, animaux de rente, comme on dit. Hein. Et c'est un plaidoyer pour ces animaux. Et c'est France Olivier Gisbert qui sera avec nous, puisque c'est l'auteur justement de ce documentaire.
Voilà, ça sera donc tout à l'heure. On va aussi, Laetitia, avoir une exclusivité sur RMC aux alentours des 7h30 avec un témoignage, on va dire inédit, hein, puisque le policier du raid qui est maître de diesel se confiera. Il était lors de l'assaut, bien sûr, il y a quelques jours à Saint-Denis, et il va nous raconter, il va nous parler surtout de son chien diesel.
Qui est mort, parce que ça a mal, hein,
oui,
en fait.
Alors, on lui posera la question, oui, aussi, parce que c'est vrai que il y a eu énormément d'informations concernant le sexe de ce chien. On disait que c'était une femelle, et en fait, non, c'est un mâle. Hein.
C'est un mâle. Diesel est un mâle. C'était un mâle qui est mort, lors de l'assaut, comme tout le monde le sait. Ce qui a ému la France, qui a ému le monde, et justement, on en parlera
tout à l'heure.
Voilà, on parlera un petit peu plus de ces chiens du raid.
Avec un témoignage exclusif, hein, puisque ce policier a choisi RMC et cette émission pour témoigner ce matin. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va s'intéresser à un film qui est sorti mercredi dernier au cinéma. Il s'agit du film Je suis un soldat.
Et c'est le premier long métrage de Laurent Larivière que nous avons avec nous ce matin. Laurent, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour, bienvenue.
Alors, merci beaucoup.
Je suis un soldat, qui est votre premier long métrage, c'est l'histoire de Sandrine, donc une trentenaire sans emploi, qui est jouée par Louise Bourgoin. Sandrine qui a accepté de travailler pour son oncle dans un chenil qui s'avère être la plaque tournante d'un trafic de chiens venus des pays de l'Est. Alors, pourquoi avoir choisi ce thème qui est un thème d'actualité, mais qui est malgré tout pas du tout traité au cinéma, le thème du trafic, oui, de chiens?
En fait, vraiment, le point de départ, c'est effectivement cette jeune fille qui se retrouve à 30 ans et qui n'a plus de travail, n'a pas réussi sa vie parisienne et est contrainte, parce qu'elle n'a plus de travail, à retourner vivre chez sa mère. Et chez sa mère, elle n'a pas beaucoup d'argent non plus, donc on va lui dire, tu vas aller travailler avec ton oncle, qui est joué par Jean-Hugues Anglade.
Oui.
Et elle va aller donc travailler dans ce chenil. Au départ, elle pense que c'est un chenil en
normal,
bonne forme.
Oui.
Voilà. Et puis, petit à petit, elle se rend compte que Jean-Hugues Anglade est au cœur d'un trafic. Mmh. Il va chercher des chiens en Belgique qui viennent des pays de l'Est et qui, pour lesquels il fait faire des faux vaccins par un vétérinaire véreux. Et en fait, ils revendent les chiens au kilo très rapidement. Et il m'a semblé que dans le traitement comme ça des animaux, ça me permettait de parler de la société contemporaine et de faire une allégorie de la cruauté contemporaine.
Alors, Laetitia Laurent, on va écouter un bout de la bande-annonce de ce film. Écoutez.
Avec plaisir.
J'ai acheté ce chien et il y a un problème.
C'est de l'eczéma, je pense.
C'est vétérinaire. Nos vaccins sont en règle, on n'a rien à se reprocher.
Faut arriver hier. Tu es qui? Slovénie.
C'est quoi?
Leur carnet de vaccination.
Et ils ont été vaccinés?
Non, mais maintenant ils le sont.
Voilà un petit bout donc de ce film qui est en salle depuis mercredi dernier.
Alors, c'est vrai que je connais bien cette thématique. Alors, dans le film, les chiens sont vendus au kilo. oui. comme de vulgaires produits. Alors il y a une foule d'intermédiaires, on pense même à des dealers, de l'argent liquide oui. facile, des descentes de police. Alors on a l'impression presque d'être dans un trafic de drogue. Est-ce que vous êtes vraiment, est-ce que c'est de la fiction, de la réalité? Moi je pense que c'est beaucoup de réalité quand même.
Oui, oui, il y a toute une part vraiment documentaire. Hein, avec mon co-scénariste François Decotes, on a étudié la question. C'est vrai que quand on s'est intéressé à ce trafic de chiens, on ne mesurait pas l'ampleur que ça avait. On s'est rendu compte qu'en fait, après les armes et la drogue, c'était le troisième avant la prostitution en termes de revenus. Les animaux, alors pas que les chiens, mais les animaux en général, c'est 15 mm-hmm. milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Et on s'est rendu compte aussi que les menaces étaient bien moindres, les risques étaient bien moindres que quand vous trafiquez de la drogue. Donc en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne vendent qu'une dizaine, une quinzaine de chiots par an, qui arrondissent leur fin de mois, mais qui font ça en toute illégalité. Et ça nous a intéressé d'inscrire le film tout d'un coup dans un thriller et d'en faire effectivement presque un petit film de mafia dans le nord de la France avec des chiots. Mais c'est basé vraiment sur des faits réels, oui.
Et vous montrez bien une chose, c'est que quelque part, bon, c'est vrai que sur fond de crise, là, l'argent est facile, l'argent liquide oui. est facile, et les gens ferment les yeux, quoi. On a plus d'affect. Oui. Enfin, les personnes qui interviennent oui. dans ce trafic n'ont plus d'affect.
Oui, et c'est la question que pose le film pour le personnage merveilleusement interprété par Louis Bourgoin, c'est que elle est tout d'un coup, elle trouve une place dans la société, elle trouve du travail, elle gagne de l'argent, et tout ça en fait répare quelque chose à un endroit de son échec, et donc nécessité fait loi, et donc elle ferme les yeux. Jusqu'à un moment où ça va aller beaucoup trop loin et elle va se rendre compte qu'elle est au cœur d'un trafic immonde et là elle va essayer de changer les choses. Mais donc la question que pose le film, c'est jusqu'où on est prêt à aller pour trouver une place dans la société et pour faire partie du monde, quoi.
Alors il paraît que vous avez écrit le film en pensant à elle, à Louise Bourgoin. Oui. Comment elle a réagi quand elle a lu le scénario?
Je lui ai fait lire d'abord sans lui dire que c'était pour elle.
Oui.
Et parce que j'avais envie qu'à la lecture, elle se projette, qu'elle ait du désir. Donc elle l'a lu de manière amicale et elle m'a appelé disant qu'elle avait trouvé le scénario magnifique et elle m'a dit mais la comédienne qui va avoir ce rôle, elle a vraiment beaucoup beaucoup de chance parce qu'elle traverse des choses tellement fortes et puis c'est un premier rôle féminin, c'est assez rare aussi dans le cinéma. Donc voilà, elle était très très enthousiasmée et je lui ai dit tout de suite que c'était pour elle et elle a immédiatement accepté et elle est allée loin parce qu'elle est allée pendant 2 mois dans un chenil avec Patrick Pitavino qui est un éleveur pour qui s'occupe de chiens pour le cinéma qui est un grand spécialiste et elle est allée passer du temps avec lui donner à manger aux chiens leur donner à boire, nettoyer les cages, les sortir, jouer avec eux pour essayer de créer un lien très fort avec elle. Et en fait, on a travaillé avec les 15 chiens de Patrick Pitavino.
Ah, ils viennent pas de... Les chiens ne proviennent pas de trafic, rassurez-nous.
Non, c'est promis. tout est en ordre chez nous.
J'imagine que vous avez...
Aucun animal a été maltraité.
Merci beaucoup, Laurent.
Merci beaucoup.
Et merci à vous.
Merci.
Et rappelons que ce film a été présenté dans la sélection Un certain regard, au Festival de Cannes.
Mercredi. Il est déjà en salle. Ça s'appelle Je suis un soldat. Et vraiment, je vous recommande beaucoup ce film. Si vous aimez les animaux et si vous aimez le cinéma. Et Louise Bourgoin est exceptionnelle dans ce film. Vraiment.
Merci beaucoup, Laurent.
Merci Laurent.
Et vous restez avec nous sur RMC. On revient dans un instant. Laetitia, nous aurons au téléphone Franz Olivier Gisbert, auteur donc de L'animal est une personne. C'est le titre de ce documentaire qui sera diffusé demain soir sur France 3. On en parle dans une minute dans ce rendez-vous animaux sur RMC. Le 3216 ou bien animaux@rmc.fr pour témoigner ce matin comme d'habitude. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Vous savez, chaque dimanche, RMC est la seule radio qui vous propose 2 heures entières dédiées aux animaux avec notre vétérinaire qui m'accompagne, Laetitia Barlerin. Laetitia, rendez-vous demain soir sur France 3 à 20h50 pour un documentaire qui met en avant l'animal et qui explique simplement le fait que l'animal est une personne.
Voilà, le documentaire s'appelle L'animal est une personne et c'est un documentaire sur ces bêtes dont on parle peu, oui. En tout cas dans les documentaires, c'est les animaux de ferme, les animaux de rente. Hein, et ce documentaire justement parle de du bien-être de ces animaux et du fait qu'il faut que
tout ça change aussi, non ?
Voilà, la nécessité changement de comportement. Vis-à-vis de ces animaux. Et nous avons avec nous Franz-Olivier Gisbert, qui est journaliste, bien connu, bien sûr, et auteur de ce documentaire.
Bonjour, Franz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce dimanche matin, Franz.
Alors, on vous avait reçu l'année dernière, il y a un an juste, d'ailleurs, pour la sortie de vos livres Manifeste pour les animaux et L'animal est une personne. Et on vous découvrait en tant que grande défenseur de la cause animale. Alors aujourd'hui, vous êtes l'auteur de ce documentaire. Est-ce que c'était une nécessité pour vous de faire ce documentaire ?
Écoutez, c'est France 3 là, qui m'a approché et qui m'a dit « Tiens, mais ce serait bien de faire ça ». Donc vous voyez, l'idée n'est pas venue de moi, parce que quand j'ai écrit ce livre, j'ai pas du tout pensé faire un documentaire. D'ailleurs, c'est pas du tout une adaptation du livre, ça n'a même absolument rien à voir. Et il y a un point de départ qui est le même, qui est toujours le même chez moi. C'est-à-dire, je comprends pas bien pourquoi, alors que la science est en train de nous montrer à quel point les animaux sont intelligents, ont beaucoup de traits semblables aux nôtres, je vois pas pourquoi c'est à ce moment-là qu'on les traite de plus en plus mal. Particulièrement en France, dans les élevages industriels intensifs et dans les abattoirs industriels, parce qu'il faut pas confondre, d'ailleurs. Donc vous verrez dans ce film.
Oui.
Il y a des belles choses, il y a des paysans courageux qui se battent et qui font bien leur travail, il y a aussi des abattoirs qui font bien leur travail, mais il y a globalement un manque de respect, et voilà, moi c'est ça, c'est un cri de colère, c'est un cri d'amour aussi, puis je veux dire, il y a des beaux paysages, voilà, l'Aubrac, etc., mais c'est aussi un cri de colère face à cette espèce de cynisme généralisé, d'ailleurs qui est celui des grandes surfaces, il faut dire les choses, c'est la grande distribution qui d'ailleurs massacre les pauvres paysans qui sont obligés de passer sous ces fourches caudines en vendant la viande le moins cher possible, parce qu'il y a cette idée idiote répandue dans la société française, notamment par les grandes surfaces, qu'il faut manger beaucoup de viande, il faut manger matin, midi et soir. On sait très bien que, d'abord, elle est mal, cette viande est mal fabriquée, si j'utilise ce mot, c'est à dessein, fabriquée, elle est mal fabriquée, si permettez-moi de le dire le matin comme ça, mais c'est vraiment de la merde. Quand vous voyez les élevages industriels de porcs, de veaux, comment ces bêtes sont, c'est atroce. Et ensuite, l'abattage, qui est un supplice, qui est un chemin de croix.
Justement,
parce qu'en France, il faut bien voir, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays européens, l'abattage rituel est très répandu, il est même majoritaire pour les bovins, mais c'est de la folie, quoi. Quand on voit le système qu'on a laissé faire, qu'on laisse faire, et c'est vrai que la France, par exemple, sur le plan de l'abattage rituel, je pense, il y a le cachère, bien sûr, et le halal, qui est beaucoup plus répandu, bien entendu, il y a plus de 50% des bovins qui sont tués halal, vous imaginez la longueur du sacrifice, le temps que ça met. Donc tout ça, voilà, il faut essayer de changer ça. Moi, il y a derrière ce film, évidemment, vraiment un cri de révolte, mais tout ça se fait aussi sur la base de l'amour et des découvertes aussi.
Oui, parce que vous dénoncez l'industrialisation de l'élevage et de l'abattage, mais en même temps, vous montrez aussi qu'il y a des éleveurs et même des bouchers qui sont sensibles au bien-être animal. Et vous montrez aussi, on en parle peu, et ça c'est bien de le montrer, c'est que un animal bien pendant son élevage donne aussi de la bonne viande. C'est ça
évidemment, vous savez, quand on les met là, quand ils vivent derrière des blocs de béton à manger leur merde, et en vivant d'ailleurs, c'est le cas de le dire, dans leur propre merde, vous pensez bien que ces bêtes là et en plus qu'ils auront un stress absolument maximum au moment de l'abattage, c'est bourré de poison.
Bien sûr.
On a découvert des tas de choses, des tas de substances épouvantables, et en plus à la fin, avec l'abattage, la durée de l'abattage avec le halal, ces bêtes-là, elles sont bourrées de toxines, bourrées de cortisol, enfin, des choses qui sont extrêmement dangereuses pour notre propre santé. Donc, moi, je suis végétarien, mais j'interdis à personne de manger de la viande, je suis pas un militant végétarien, je suis pas un prosélyte. Mais ce que le cri d'alarme qui est poussé à travers ce film, c'est, mais on peut les traiter mieux, d'autant plus que ça, c'est un autre aspect du film. La science est en train de nous apprendre, mais c'est depuis peu de temps d'ailleurs, hein, c'est depuis, surtout depuis le début du 21e siècle, il y a des tas d'universitaires qui se passionnent pour les animaux aux États-Unis, en Grande-Bretagne. On est allé en voir un certain nombre, notamment la célèbre docteur Pepperberg à Boston, qui étudie les perroquets, qui est une célébrité américaine, c'est une sorte de mythe, et en regardant son perroquet, vous avez une scène absolument incroyable qui clôt le film, qui montre à quel point les animaux sont proches. Vous voyez que le perroquet ne répète pas, contrairement à ce qu'on a longtemps pensé. Oui. Le perroquet parle.
Vous avez on peut avoir un échange avec lui, en fait.
Oui.
C'est ça.
Ah non, mais il parle.
Et c'est raisonné ce qu'il dit. Oui.
Le docteur Pepperberg est avec nous à la fin du film et elle lui fait faire des petits exercices. Alors c'est quoi, c'est quelle couleur, c'est quel chiffre, et ça c'est quoi, c'est du bois. Oui, oui, très bien. Puis brusquement le perroquet dit I want to go back. C'est-à-dire, je veux rentrer à la cage.
Vous le faites très bien, France, en plus.
J'en ai marre. I want to go back. Et il parle
il
comme
en a
ça,
marre.
Le perroquet. Il parle. Il parle, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas juste de la répétition. Non, non, il exprime un sentiment et ça s'appelle parler.
Exactement. Alors, vous dites, soyons humains avec les bêtes. Je suis bien d'accord avec vous. D'où peut venir le changement des politiques, de la société, d'une prise de conscience?
De la société. Ça, je crois que non, il faut arrêter en France de dire toujours c'est la faute des politiques. Les politiques, ils peuvent rien faire quand la société, disons, ne bouge pas et n'a envie de rien. Et je pense que il faut que la société se réveille. C'est-à-dire, vous avez raison, c'est mon slogan, là, soyons humains avec les animaux. Faut apprendre à le redevenir. C'est l'homme, il est coupé du monde du vivant avec l'urbanisation. Et il sait plus ce que c'est un animal. Hein. Vous avez de nombreux enfants, ils voient une vache pour la première fois de leur vie, souvent très très tard. Et ce qui était peut-être pas tout à fait le cas de ma génération. Moi, j'étais élevé à la ferme en plus. Hein. Ce qui fait d'ailleurs, je n'ai aucune. Pour dire, c'est pas un film du tout contre les paysans, comme on en voit beaucoup trop souvent.
Non, moi, pas du tout.
J'ai une grande empathie avec les paysans et ceux qui fabriquent de la merde dans les élevages industriels. Eh ben, c'est ceux qui sont prisonniers du système de la grande distribution. Hein. Et vous voyez d'ailleurs, parce que vous parliez tout à l'heure des bouchers, c'est vrai que je remarque chez certains d'entre eux comment une certaine compassion, enfin une volonté de bien faire le travail. Et eux, évidemment, enfin les grands bouchers, il y en a beaucoup, ils font en sorte justement que les bêtes soient bien élevées et bien tuées. Ils sont même en train de lancer un label d'ailleurs. Lutter contre cette espèce de merde répandue par la grande distribution.
Donc on a chacun un rôle à jouer finalement, hein, en achetant de la viande, peut-être en acheter moins déjà, et puis l'acheter dans des endroits où on peut essayer de la tracer et savoir si c'est de la viande de bonne qualité.
L'une des grandes hontes du système français, à la solde de la grande distribution, notamment après la loi de 2008, là, sous Nicolas Sarkozy, parce qu'on lui a donné tout, elle fait tout, etc., vous n'avez pas de traçabilité. Enfin, vous avez des espèces de chiffres indétectables. Vous savez pas même pas comment la bête a été abattue, si elle a été abattue à l'âne ou pas. C'est un scandale total. Il faut de la traçabilité. Et d'ailleurs, on y viendra fatalement. Et ça, ça ne peut venir que de la société.
France, merci beaucoup. Merci.
Merci beaucoup. Alors, je vous donne rendez-vous demain à 20h50.
Sur France 3.
Sur France 3. C'est un documentaire qui s'appelle L'animal est une personne. Et il est suivi d'un débat animé par, je ne sais plus qui.
Carole Gessler.
Voilà, Carole Gessler. Merci. Merci.
À bientôt, France. Et merci d'avoir été avec nous ce dimanche matin.
Ne manquez pas, justement, demain soir. C'est vraiment très intéressant. Et vous allez voir, c'est un documentaire comme rarement on peut en voir à la télévision.
Laetitia, on revient dans un instant avec une exclusivité RMC, un témoignage inédit et sans doute émouvant, puisque nous aurons le policier du raid, Maître de Diesel, qui sera avec nous au téléphone. À tout de suite sur RMC.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h33, c'est RMC, merci d'être avec nous, le week-end des experts. Vous le savez, chaque dimanche sur RMC, 6h-8h, Laetitia Barlerin m'accompagne. Et à partir de 8h, on changera d'univers avec l'automobile et Jean-Luc Moreau. Laetitia, nous allons maintenant revenir sur cette semaine terrifiante qu'on a pu vivre. Et notamment s'arrêter sur ce qui s'est passé mercredi dernier avec l'assaut donné par le RAID à Saint-Denis. On le sait, ça a été énormément médiatisé. Un chien s'est sacrifié ce jour-là. Il s'agit de Diesel. Ça a été Incroyable, hein, il y a eu un écho incroyable sur les réseaux sociaux. Oui, on a eu énormément de témoignages sur Facebook. Marie-Rose, Thierry qui nous dit « Respect à Diesel pour le travail accompli pour la nation. Il mériterait la Légion d'honneur. Quand je pense qu'on donne cette médaille parfois à n'importe qui, bien là, lui, il le mérite véritablement. » Delphine qui nous dit « Diesel mérite la médaille à titre posthume. Il s'est sacrifié pour sauver des vies. » On a eu des dizaines, voire des centaines de témoignages comme ceci, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook.
Et des témoignages dans le monde entier, puisque sa mort a ému la France et
évidemment.
Même le monde. Et nous sommes là avec justement son maître, le maître chien de Diesel, qui est policier d'élite pour le RAID.
Alors pour des raisons de sécurité et d'anonymat, bien évidemment, on ne va pas citer votre identité, monsieur. Hein, bonjour.
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 Merci d'être avec nous.
Merci mille fois d'être avec nous.
D'avoir accepté cette invitation.
Alors dites-nous pour commencer, pour qu'on connaisse mieux Diesel, qui était Diesel et depuis combien de temps travaillait-il avec vous? Parce que je précise que c'est un mâle, c'était un mâle.
Ouais, c'était un mâle et donc Diesel, c'est un chien malinois qui âgé de 7 ans. Donc c'est un chien d'assaut, hein, qui fait partie intégrante de l'unité. Mmh. Il est arrivé au chenil il y a 5 ans et depuis ça fait 4 ans que j'assurais les interventions avec lui.
Quel est le rôle des chiens dans une unité d'élite comme le RAID?
Alors le rôle des chiens d'assaut, c'est d'ouvrir la voie au reste, pour le reste de la colonne, quoi. Il utilise tous ses sens pour détecter la présence d'individus.
Oui.
Et donc, si l'individu est accessible, il ira au mordant. Et s'il n'est pas accessible, il aboiera devant la cache où est réfugié l'individu.
Alors. On sait que vous utilisez aussi toute la technologie, des robots, etc.
Des drones aussi, hein, c'était le cas d'ailleurs
aussi.
À Saint-Denis.
Pourquoi à un moment, toute cette technologie ne peut pas remplacer un chien?
Parce que la technologie, ça reste que du visuel. Le chien, il se sert de tous ses sens, de l'audition, de la vue, de son flair. Enfin voilà, c'est la technologie complète, quoi, en gros, le chien, quoi. Même si, pareil, le chien n'est pas non plus infaillible, hein, parce que ça reste qu'un animal, mais voilà, c'est un moyen supplémentaire, quoi.
Alors, nous sommes mercredi matin, en pleine nuit, hein, en tout cas au tout début de la matinée. Racontez-nous ce qui s'est passé.
Quelle était la mission de Diesel?
Alors, la mission mercredi, c'est de... quand on arrive, il y a eu de nombreux échanges de coups de feu, des envois de grenades, etc. Et donc à un moment le calme revient, c'est presque un calme anormal, quoi. Et donc au bout de plusieurs minutes de calme, on décide de l'envoi du chien, parce que pour s'assurer, avec tout ce qui s'est passé, le nombre d'échanges de coups de feu, le nombre de grenades, etc. On se dit que
Oui, peut-être que vous
les terroristes à l'intérieur ont été bien secoués.
Neutralisés, oui.
Donc on se dit qu'on envoie Diesel pour s'assurer que la zone est claire, quoi. Donc moi je l'envoie dans l'appartement. Il fait une première pièce. Il fait le tour d'une première pièce qui est claire. Et puis il part dans une seconde pièce. Et là je le vois qui commence à s'élancer, et puis après je le vois plus, je perds le visuel, et donc je pense qu'il a effectivement repéré quelqu'un, et puis à ce moment-là il y a les coups de feu qui retentissent, et puis voilà, quoi, il reviendra jamais.
Et vous c'est à ce moment-là vous êtes sûr que Diesel est mort?
Je suis sûr de rien, mais moi je reste un peu, j'attends au moins. Je me dis que forcément c'est Diesel qui est visé, quoi. Mais après je m'attends quand même à ce qu'il revienne en rampant. Voilà, c'est déjà arrivé qu'il y ait des chiens blessés. Mmh. Et j'attends et il revient pas. Et donc
là on peut imaginer qu'il est mort sur le coup, en fait.
Certainement, oui, ouais. Certainement. Ouais.
Si, parce qu'on comprend tout de suite l'intérêt de ce genre d'intervention de ce chien. Si il n'y avait pas eu Diesel, ça aurait été l'un de peut-être vous qui serait allé là-bas.
Ouais, c'est ça. Après, sans l'intervention de Diesel, en fait, l'action de Diesel permet d'éviter d'exposer les collègues.
Voilà, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un policier aurait pu être abattu à la place de Diesel.
Ah ouais, tout à fait, hein, tout à fait. Hein. Ouais, ouais.
Alors, Diesel était un chien surentraîné. Vous êtes vous-même surentraîné, mais ce sont des chiens quand même exceptionnels. J'imagine que le mental est très important, a été très important chez Diesel, d'autant plus qu'il y avait des échanges de tirs. Comment a agi Diesel avant d'intervenir, quand il y a eu tous ces échanges de tirs, il n'était pas à saturation?
Alors, on travaille justement sur toute cette partie-là de détonation, d'explosion, etc. Ça fait partie des entraînements. Et dans un premier temps, pour la journée de mercredi, hein, ça le met d'abord en excitation, ça le conditionne vraiment au boulot, ça le met vraiment dans le match. Et puis c'est vrai que ça dure très 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 longtemps. Et donc au bout d'un moment, je le sens quand même qu'il commence ça commence à lui devenir pénible, quoi. Effectivement, la répétition de détonation, d'explosion, etc. Mais bon, il était toujours là, toujours vaillant. Enfin voilà, il n'était pas non plus ça allait, quoi. Et ça allait d'autant plus que quand je l'envoie, il fait parfaitement le travail qu'on attend de lui, quoi. Donc voilà.
Alors ça faisait 5 ans que c'était votre compagnon de travail, j'allais dire, hein, c'est ça?
Ouais.
Comment ça se passe au quotidien? Diesel était tout le temps avec vous? Vous formiez un binôme pendant les heures de travail? Est-ce que, par exemple, aussi dans votre vie privée, ce chien était avec vous? Comment ça se passe? Racontez-nous.
Alors nous, les chiens, c'est des chiens de chenil. Hein. Enfin voilà, c'est du chien de travail. Ils vivent en boxe. J'ai déjà un chien à la maison, donc après je peux pas non plus avoir toute une meute à la maison, mais non, c'est des chiens c'est vraiment du pur chien de travail qui reste en boxe, et son seul intérêt de sortir du boxe, c'est pour aller travailler, quoi. Donc sa vie c'est le travail, quoi. C'est ça, il s'éclate, son intérêt, son jeu, enfin voilà, il s'épanouit dans le travail, quoi. Vraiment des chiens qui s'épanouissent dans le travail.
Vous parlez de travail, en fin de compte, ce qui est important, c'est le binôme, hein, que vous formez avec votre chien, et surtout la confiance qu'avait Diesel en vous. Ça, c'est vraiment le point d'ancrage de ce travail-là. Et puis aussi, on a l'affection, on a le jeu.
Ouais, tout à fait. Bah, la confiance, ça s'acquiert au quotidien. Hein. C'est par le temps passé avec le chien, par des épreuves traversées ensemble. Enfin voilà, c'est des surmonter, c'est vraiment au quotidien que tout ça s'acquiert. Et puis après c'est une confiance mutuelle, hein. Moi j'ai parfaitement confiance en lui il a parfaitement confiance en moi, donc voilà, on se pose pas trop de questions, on sait exactement comment réagira l'un et l'autre, on sait où se trouver, comment se trouver. Et puis effectivement toute la partie dressage est basée sur le jeu, quoi. Et que des exercices ludiques, enfin il n'y a aucune contrainte sur le chien, enfin tout est basé sur le jeu, quoi.
Mmh. J'imagine que vous êtes très triste. D'ailleurs, ça se sent et on comprend tout à fait. Comment avez-vous réagi suite à cet élan de solidarité? Alors, je le disais, là, on a donné quelques exemples de témoignages, mais c'est au niveau mondial. Est-ce que ça vous a touché?
Ah oui, forcément. Ça ne peut que me toucher, et nous toucher, nous, l'ensemble du groupe Sino, quoi.
Vous attendiez à ce genre de réaction? Vous attendiez à ça ou pas?
Vraiment pas du tout, on a été vraiment très très étonnés.
Oui.
Surtout effectivement, comme vous dites, là, c'est d'une ampleur internationale, quoi. C'est quelque chose vraiment d'assez énorme. Et d'ailleurs, c'est un grand merci à tous les messages de soutien qu'on ait pu avoir. Et aussi, c'est vraiment important aussi pour surmonter l'épreuve de la perte de Diesel. Et après, c'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup de propositions, de dons de chiens, etc. Donc on pourra pas honorer toutes ces propositions là.
Oui, est-ce que j'ai lu que vos confrères de Russie aimeraient vous offrir un chien, un chiot berger allemand ou malinois?
C'est ce que j'ai lu aussi, j'en sais pas plus. Hein. C'est ce que j'ai lu comme vous dans les médias. Sais pas plus à ce niveau là.
Comment sont sélectionnés justement ces chiens? Qui sont les chiens d'assaut du raid?
Alors les chiens, ils sont sélectionnés entre 12 mois et 2-3 ans maximum.
Ce sont des malinois?
Ce sont essentiellement des malinois. On a deux spécialités au raid. On a la recherche d'explosifs et donc les chiens d'assaut.
Diesel était un chien d'assaut.
Diesel était un chien d'assaut. Ce sont deux spécialités bien distinctes. Et on sélectionne le chien entre 12 mois et 2 ans, 3 ans en cran maximum. Pour on attend déjà que le chien ait un caractère affirmé. Éviter qu'il y ait de surprises après quand le chien grandit. Et ils sont recrutés on leur fait passer des tests en fonction de nos besoins, de ce qu'on attend d'eux. Et après, ils poursuivent qu'ils sont recrutés, on leur fait passer une formation qui dure entre 12 et 18 mois pour un chien d'assaut. Ouais.
Et une formation faite avec vous, avec le maître chien.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc c'est après ça va être basé sur l'amélioration des techniques de mordant, sur l'obéissance. Ça va être l'intégration à la colonne. Ça va être des exercices en conditions réelles, dans des zones dégradées. Enfin voilà. Après on va accentuer, on va y aller crescendo. Ouais.
Oui, j'ai même vu, vous faites des sauts en parachute avec, des descentes en rappel avec le chien. Il faut vraiment qu'il ait une grande confiance en vous, parce que le chien a peur du vide.
Ouais, le chien, le vertige, effectivement. Et ouais, effectivement, tout ça, ce sont des choses qui sont faites pas par tous les chiens, pas par tous les maîtres non plus. Enfin, les descentes en rappel, oui, mais après le saut en parachute, c'est pas non plus, c'est pas systématique, parce qu'il faut être chuteur opérationnel. On l'est pas tous au chenil. Et effectivement, ouais, c'est la notion du vide, c'est quelque chose d'assez compliqué à assimiler pour le chien. Et effectivement, il faut qu'il nous fasse une confiance aveugle, quoi.
Alors, j'imagine que pour vous, il faut tourner la page, même si j'imagine qu'il y a une période de deuil qui est évidente. Est-ce que vous allez avoir un nouveau compagnon bientôt ?
Oui, bien sûr, parce que il y a toujours des, enfin le besoin de.
Oui, bien sûr.
Le besoin reste là. Il y aura d'autres missions, il y aura d'autres interventions et oui, bien sûr, j'aurai un nouveau compagnon bientôt. Il va falloir le former, etc.
Mais vous êtes prêt aujourd'hui ou il va falloir attendre un petit peu quand même que vous fassiez votre deuil?
Ah, c'est pas, enfin le deuil se fera au fil du temps. Après il faut commencer le travail dès maintenant, quoi.
Est-ce que l'équipe de Sino du RAID a l'impression d'avoir perdu un membre à part entière de leur équipe?
Ouais, complètement, parce que un chien, on ne travaille pas un chien tout seul, quoi. On arrive au niveau qu'on a dans toute la partie de dressage, c'est un investissement quotidien de tous les effectifs du chenil, quoi. Parce qu'il faut le faire mordre, parce qu'il faut mettre en place des exercices, parce qu'il faut réfléchir à trouver des solutions, et tout ça c'est l'ensemble du groupe qui amène tout ça, quoi.
On a fait un sondage ce matin auprès de nos auditeurs pour savoir s'ils étaient d'accord sur le fait de décorer Diesel. Est-ce que, et bien sûr, la majorité des auditeurs demandent à ce que...
Oui, l'immense majorité, on est à plus de 90%. Quelle est votre opinion sur ce sujet?
Nous, donc on a déjà eu des chiens qui ont été décorés. Donc effectivement, Diesel, c'est le premier chien mort en intervention. Donc moi, je serais assez satisfait qu'il soit décoré. Hein.
C'est le premier chien qui est mort à l'intervention? Il n'y a pas eu de précédent?
Non, on a eu des blessés, mais jamais de mort en intervention.
Je sais, il y a en ce moment une douzaine de chiens, plus d'autres chiens qui sont en formation dans le RAID. Le mental est très important chez ces chiens-là qui sont surentraînés. Bien sûr, le physique est très important. D'un point de vue caractère, comment était Diesel?
Diesel, il était assez on-off, c'est-à-dire que il était dans toutes les phases d'attente, même dans la colonne, quand la colonne travaillait, etc. Tant que c'était pas à son tour, il était couché, les pattes croisées, pas de souci. Par contre, dès qu'il sentait la tension ou un peu de mouvement ou que c'était à son tour d'y aller, là, c'était parti, il était dans le match. Et voilà.
Alors, juste pour terminer, peut-être sur une note d'optimisme, Diesel nous a quittés. J'aimerais, moi, savoir, quand ils arrivent en fin de carrière, ces chiens-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que leur maître, les prennent pour lui et poursuivent une vie tous les deux? Comment ça se passe? Qu'est-ce que deviennent ces chiens quand ils partent à la retraite?
Alors, les chiens, ils sont réformés à l'âge de 8 ans, ils sont retraités à l'âge de 8 ans, Diesel aurait été retraité au printemps prochain.
Ah oui.
Ah, c'était sa dernière année.
Ouais. Oui, puisqu'il avait 7 ans. Ouais.
Ouais. Mm-hmm. Ouais. Et effectivement, les chiens, ils sont toujours, choyés, même à la retraite. Mm-hmm. Après, effectivement, que ce soit pour Diesel ou que ce soit pour les autres chiens, c'est priorité forcément au maître. Voilà, sur le replacement de Diesel, mais on a énormément de demandes pour récupérer nos chiens parce que c'est des chiens très stables et toutes les familles qui ont accueilli les chiens du raid, que ce soit les chiens d'explosifs ou les chiens d'assaut, on a toujours des retours et que des bons retours et ça se passe vraiment très 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 bien à chaque fois.
Et oui, ce sont quand même des chiens exceptionnels.
Ah, je vais pas vous dire le contraire.
Merci beaucoup pour ce témoignage ce matin. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. On sent votre émotion. Merci beaucoup.
Et on la comprend, bien sûr. Laetitia, on va revenir dans un instant avec entre autres Cyril qui voulait témoigner justement et qui va nous donner son avis sur le fait de décorer ou pas Diesel. Mais franchement, sincèrement, à l'unanimité, on le voit d'ailleurs dans le sondage.
Bien sûr.
Diesel mériterait une décoration. Hein, en tout cas, en hommage.
Je pense qu'il va l'avoir.
On revient dans un instant. C'était RMC, le week-end des experts et les animaux.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
RMC 7h53, Laetitia, encore quelques minutes à passer ensemble pour ce week-end des experts animaux. Et on souhaitait en fait avoir quelques témoignages d'auditeurs qui justement voulaient réagir suite à la disparition de Diesel. Et nous avons Cyril qui nous a appelé au 3216. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Bonjour Cyril. Alors je crois que vous connaissez bien les bergers malinois puisque vous êtes éleveur de bergers malinois.
Oui, tout à fait. Je suis un petit éleveur amateur de bergers belges malinois, également éducateur canin et aussi agent cynophile de sécurité.
Oui.
Donc, je connais bien. Je connais bien cette race depuis 23 ans et bon, effectivement, bien évidemment qu'il faut décorer Diesel. C'est tout à fait normal. Elle a quand même sauvé la vie de son maître entre autres et peut-être plusieurs de ses collègues. C'est pas un humain, mais c'est pareil. Ça fait partie de l'équipe.
Cyril, petite question d'un auditeur qui nous dit alors les chiens ont-ils une retraite? On a eu la réponse avec le maître de Diesel qui nous expliquait que oui, bien sûr. Et pourquoi les Malinois sont-ils privilégiés par rapport à d'autres races? Pourquoi choisit-on le Malinois justement pour ce genre d'intervention?
Alors Cyril, moi je dis souvent que le Malinois c'est vraiment la Ferrari des chiens de travail. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Ah, complètement d'accord. C'est vraiment un chien qui... Le Malinois, il peut faire, on va dire, 90% de ce qu'on lui demande dans la vie, aussi bien en sport qu'en utilité. C'est vraiment le chien par excellence du chien de travail et d'utilité. On le retrouve dans toutes les administrations, à l'armée, dans les douanes, gendarmerie, enfin, dans vraiment partout. Donc, chez les pompiers, donc voilà, pour le décombre, le Malinois sait tout faire.
Je parlais du mental du chien et c'est vrai que chez le Malinois aussi ça compte beaucoup et cette relation aussi avec son maître.
Bah, c'est des chiens qui sont vraiment très très proches du maître, donc évidemment la complicité elle peut être que là et le chien, si je peux me permettre, il mourra pour vous quoi.
Et oui, mais on l'a vu là,
il a
donné sa vie pour sauver la vie d'autres. Hein. De personnes humaines.
C'est vraiment le chien, voilà, qui est vraiment pour le maître, quoi. Il est là, voilà. C'est le cœur du maître, quoi.
Est-ce que En fait, il y a des précautions à prendre. Si par exemple, je suis un particulier, j'adore les chiens, je peux prendre un malinois pour moi. Ce sont des chiens qui sont, on va dire, au quotidien, si je ne veux pas en faire un chien d'assaut, qui sont agréables à vivre au quotidien.
Alors, c'est des chiens de compagnie extrêmement adorables, surtout avec les enfants. C'est adorable. Ouais. Moi, j'ai deux filles, mais c'est des amours avec les. Protecteurs, mais protecteurs sans être méchants, bien évidemment. Mais voilà, ils sont. Moi, mes filles, elles se couchent sur le chien ou sur la chienne. Le chien, il bronche pas. Alors, bien évidemment, ça dépend des caractères. Après, il faut quand même toujours être vigilant avec les enfants. Mais ce sont des amours, quoi. Mmh.
C'est vrai, Cyril. Moi, qui en connais pas mal, ce sont des chiens super, sauf qu'ils ont besoin de stimulation
et d'exercice, j'imagine,
et intellectuel.
Et oui, bien sûr.
Régulièrement, ça c'est important.
Ce sont comme des athlètes de haut niveau.
Et voilà, c'est ça.
Ils ont besoin d'exercice. Mmh. Plus on leur en donne, et plus ils sont contents. Donc c'est ça qui est bien.
Et ils sont extrêmement généreux.
Ah, oui, tout à fait. Oui.
Merci beaucoup, Cyril, pour ce témoignage ce matin. Merci.
Si je peux me permettre, j'organise un grand rassemblement dans les Landes cet après-midi à 14h sur le parking du lac d'Arjusan, justement pour rendre hommage à Diesel.
Eh bien voilà.
C'est où exactement ?
C'est sur le à Arjusan dans les Landes.
Arjusan dans les Landes, d'accord.
Voilà.
Parfait, merci. Donc, Cyril.
Merci à vous.
Merci,
à
bientôt. Merci pour lui aussi. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Alors, on ne va pas citer tous les témoignages qu'on a eus par mail, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais en tout cas, on les a lus. Laetitia, pour terminer ce rendez-vous animaux, eh bien, on va écouter maintenant un hommage assez étonnant, rendu non pas par un piano, non pas par des chanteurs, non pas par des footballeurs, mais par un perroquet. Alors, c'est pas un extrait de The Voice.
Il y a eu une faute sur une note, mais bon.
Oui, il y a eu une petite faute. On peut le remettre, Jérôme, remets-le deux secondes, parce que, voilà. Voilà. Ouais. Donc, c'est un perroquet qui rend hommage à sa façon, évidemment, à ce qui s'est passé cette semaine. C'était la Marseillaise chantée par un perroquet. C'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Hein.
Exactement, on va la mettre tout de suite sur notre page.
Laetitia,
merci à tous, merci de nous avoir écoutés.
Et
merci,
on sera là dimanche prochain.
Voilà, au maître de Diesel d'avoir accepté d'intervenir dans notre émission.
Que vous pouvez retrouver en podcast, bien sûr.
Ben voilà, son sentiment sur la mort de Diesel. Merci et bon dimanche à tous.
À dimanche prochain, Laetitia, dans un instant, c'est l'automobile avec Jean-Luc Moreau. 2 heures dédiées à l'auto au 32-16, bien sûr, pour vos questions. À tout de suite.